France Info.
Bonsoir. Des petits déjeuners gratuits dans les écoles pour venir en aide aux plus démunis. Est-ce la bonne idée? Elle fait en tous les cas débat, vous le verrez, depuis ce matin. Un revenant à la une des informés, François Fillon, l'homme qui faillit être président, renvoyé avec son épouse en correctionnel. La droite s'est-elle remise de ce crash? Erreur de jeunesse, vraie connerie. Nathalie Loiseau rattrapée par sa présence en 1984 sur une liste étudiante d'extrême droite. Elle tente de se justifier et ce, au cœur d'une campagne des européennes toujours au point mort. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique du Figaro. Notre partenaire du mardi également, Yasmina Jaffar, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, journaliste, fondatrice du site laruchemedia.com. Invité également, bonsoir, Agathe Cagé.
Bonsoir.
Ravi de vous revoir, politiste, présidente du cabinet de conseil Compass Label. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Christophe Alévèque. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Le retour, comédien, humoriste. Vous êtes en tournée au théâtre pour votre revue de presse.
Tout à fait.
Une prochaine date, c'est au Toboggan à Lyon. Ce sera ce samedi. Vous travaillez beaucoup en ce moment, Christophe. Hein,
oui, 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 mais l'actualité donne toujours, est tellement, souvent absurde, et tant mieux pour
Allez,
moi.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Parce qu'il ne faut plus que des enfants aillent à l'école l'estomac vide, parce que leurs parents n'ont pas toujours les moyens de les nourrir. Eh bien, l'État débloque 6 millions d'euros pour expérimenter des petits déjeuners gratuits dans les établissements de 8 académies. Cette mesure fait partie des promesses du plan pauvreté annoncé en septembre dernier par le président de la République. Et pourtant, certains la conteste cette mesure, à l'image de Catherine Da Silva. Elle est directrice d'école en Seine-Saint-Denis et représentante du SNU IPP 93. Elle l'a dit ce matin à Marc Fauvel sur France Info, ce n'est pas à l'école de le faire.
Mais est-ce que vraiment c'est à l'école où on doit nourrir les enfants des familles pauvres? Est-ce que ce n'est pas les stigmatiser quand on va les choisir pour dire ben, vous ne mangez pas, donc c'est à vous qu'on va donner à manger? Soit on offre le petit déjeuner à tout le monde avant l'école, parce qu'à un moment donné, sinon ça veut dire qu'on perd du temps d'école quand on est pauvre, parce qu'on prend le temps de petit déjeuner. Soit c'est juste un effet d'annonce, on se fait plaisir en disant qu'on s'occupe des pauvres, et puis finalement on ne fait pas ce qu'il faudrait au niveau social derrière, pour que des familles qui font ce choix de ne pas nourrir leurs enfants, enfin qui font ce choix, qui font ce pas choix de ne pas nourrir leur famille, puissent quand même les nourrir.
Yasmina Jaffar, ce n'est pas le boulot des profs?
Alors le mot pauvre n'est pas un gros mot, donc il faut pas penser que parce qu'on s'occupe d'eux, on a le sentiment de les stigmatiser, ça n'est pas le cas. En 1954, Pierre Mendès France avait proposé le petit verre de lait, aussi pour aider la filière laitière, mais aussi parce qu'il fallait que les enfants aient quelque chose dans l'estomac, et je trouve que cette idée est une très bonne idée. On sait très bien que l'environnement social est important. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit depuis à peu près 5 mois maintenant, il y a des gens qui ont les moyens et d'autres qui n'ont pas les moyens. Aller à l'école en ayant faim, c'est compliqué. Et ouais. Il y a des parties de la société où il y a des vrais lieux de pauvreté, où il y a des pauvres et qu'il faut absolument nourrir d'une manière ou d'une autre, de la manière que la cantine. La seule problématique que j'ai, c'est sur le mot gratuit. Ouais. Parce qu'en fait, en réalité, rien n'est gratuit. Ça coûte 6 millions et ça va coûter 12 millions d'ici 2020. Donc il y a quand même une terminologie qui n'est pas totalement juste. Mais l'idée est que ça ne coûte rien aux familles pauvres.
Marion Mourgue, à votre tour, hein. Est-ce que au fond, l'école peut tout faire aujourd'hui?
Je ne sais pas si elle peut tout faire, mais là, c'est quand même déterminant que des enfants puissent suivre l'école. Et on sait que quand on a le ventre vide et que c'est subi, on a plus de mal à se concentrer. La seule question, c'est en effet comment on paye. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre de communes qui s'alarment en disant on n'a plus les moyens pour beaucoup de choses. Donc, si l'État nous demande ça, il faut que l'État apporte un vrai financement en plus de la compétence. Il faut qu'il y ait un transfert entre les deux. Donc, c'est là où l'État doit répondre, parce que sur le principe, c'est très bien. Je crois qu'on ne peut pas être contre. Mais il faut juste que le financement suive.
Oui, Agathe Cagé, ce qu'a dit également cette enseignante ce matin sur France Info, et ça a retenu notre attention, c'est qu'il y aurait peut-être un risque de stigmatisation des enfants, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui ont faim.
Non, parce que d'abord, tous les enfants pourront petit déjeuner gratuitement dans les écoles où la mesure sera mise en place. Donc c'est finalement une mesure de ne pas stigmatiser, c'est une façon avec cette mesure de ne pas stigmatiser les enfants qui n'auraient pas pu petit déjeuner avant l'école. Et on sait très bien les conséquences que ça a durant la matinée de classe, des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, des enfants qui ont faim, des enfants qui, pour certains d'entre eux, peuvent faire un malaise. Donc oui, il y a des situations sociales extrêmement difficiles, et c'est une façon, en proposant cette mesure, de répondre au moins en partie à ces situations sociales. Il faut savoir que dans certaines classes, des enseignants disaient que 25%, 50% des élèves qu'ils avaient devant eux n'avaient pas petit déjeuner avant d'arriver à l'école. C'est une mesure qui finalement n'est pas si nouvelle que ça. Dès 2016, elle avait été proposée dans un rapport sur la grande pauvreté à l'école remis par Marie-Alice Grard à TD Quart Monde et Jean-Paul Delahaye. Ça fait assez longtemps qu'on sait qu'il faut qu'on travaille sur ce petit déjeuner pour répondre à ces situations délicates. Et c'est une bonne chose que la mesure soit enfin testée. On verra après ses effets, mais c'est une très bonne chose pour moi qu'elle soit
testée.
Alors,
je vais vous faire réagir, vous aussi, également, Christophe Alévèque. Juste d'abord, les explications sur le dispositif du ministre de l'Éducation qui était ce matin en visite, Jean-Michel Blanquer, dans une école à Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise.
Si vous ne dormez pas bien, si vous ne mangez pas bien en particulier, vous avez du mal à apprendre. Donc il faut évidemment regarder ces questions. Non pas pour tout faire à la place des familles, mais pour être avec les familles dans les nécessaires bonnes pratiques qu'il doit y avoir.
Christophe Alévèque, ce dispositif, selon vous, fait quand même l'unanimité ?
Oui, enfin, c'est une fausse polémique. Cela dit, si la bouffe est toujours aussi infâme que quand j'allais à la cantine, moi, c'est forcément une mauvaise idée.
Les choses ont évolué depuis.
Les choses ont évolué, merci. Et évidemment qu'il faut donner à bouffer aux gamins à l'école. Enfin, je vois même pas pourquoi il y a une polémique.
Une polémique, c'est réflexion autour de
l'école. Ouais, une réflexion, mais stigmatiser, arrêtons avec... On stigmatise tout à notre époque. Ouais. On ne peut plus l'ouvrir, on stigmatise, enfin stop. Par contre, le constat, c'est... là où je suis un peu la dame qu'on a entendue, c'est... à notre époque, qu'il y a encore des gamins qui bouffent pas le matin parce que les parents ont pas assez d'argent. Ça, c'est quand même
C'est le sujet de fond.
C'est le sujet de fond, oui. Et j'ai pas entendu aucun membre du gouvernement dire, tiens, on va augmenter les salaires. Mais attendons jeudi. Parce que je pense que jeudi, nous allons avoir une solution miracle.
Allez, pour l'instant, il est 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
L'avocat de François Fillon dénonce la mauvaise foi des juges d'instruction après le renvoi devant la justice de son client. L'ancien candidat de la droite sera jugé dans l'affaire des emplois fictifs qui avait plombé sa campagne présidentielle. Il devra répondre, entre autres, de détournement de fonds publics. Sa femme, Pénélope Fillon, de complicité et recel de détournement de fonds publics. L'affaire Carlos Ghosn au programme de la réunion entre Emmanuel Macron et Shinzo Abe. Aujourd'hui, à l'Elysée, les deux dirigeants ont évoqué le cas de l'ex-PDG de Renault, incarcéré au Japon. Nous sommes très vigilants concernant le respect des droits de M. Ghosn, dit l'Elysée dans un communiqué. La réforme constitutionnelle largement adoptée en Égypte avec presque 89% des voix. C'est la fin de 3 jours de référendum. Le deuxième mandat du président Sisi sera donc allongé de 2 ans jusqu'en 2024. Il pourra également se représenter une troisième fois. Il n'y a finalement aucune victime française après les attentats au Sri Lanka avant-hier. Les autorités locales reviennent sur leur annonce. Le Quai d'Orsay confirme. Cette série d'attaques a fait au moins 320 morts. L'État islamique revendique ces attentats. Et puis une immense bâche en cours d'installation sur Notre-Dame de Paris. Il faut protéger la cathédrale de la pluie après l'incendie de la semaine dernière. Les averses pourraient encore plus fragiliser la toiture. Des capteurs de mouvement également mis en place. Ils permettront d'évaluer avec plus de précision la stabilité du bâtiment.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est le genre de sparadrap dont on se débarrasse difficilement. Nathalie Loiseau, depuis la révélation de Mediapart, a dû se justifier aujourd'hui d'avoir émargé en 1984, lorsqu'elle était à Sciences Po, à une émanation de l'ancien GUD d'extrême droite, l'UED, l'Union des étudiants de droite, syndicat étudiant qui prônait, l'union des droites, se voulait nationaliste et anticommuniste. L'ancienne ministre des Affaires européennes, candidate, tête de liste Renaissance La République en marche, s'en est expliquée au micro de Simon Le Baron de France Info.
Avoir figuré sur une liste où il y avait des gens d'extrême droite, c'est une vraie connerie. C'est une erreur de jeunesse, je le regrette. Je suis arrivée sur cette liste amenée par quelqu'un qui était gaulliste et qui proposait qu'il y ait du pluralisme à Sciences Po et qu'il y ait plus de femmes qui se présentent. J'aurais dû enquêter, j'aurais dû regarder qui étaient les autres colistiers. Je ne les connaissais pas, je ne les fréquentais pas, je ne les ai jamais revus. Et découvrir qu'ils étaient d'extrême droite me fait dire que c'est une vraie connerie.
Marion Mourgue, une vraie connerie, elle le dit deux fois au micro de Simon Levaron.
Une vraie connerie, c'est ce qu'elle vient de dire.
Ah oui ? Est-ce que l'explication va suffire ?
Je suis pas sûre, parce que l'explication est un peu à rallonge et on sent qu'elle s'enferme dans ses justifications, surtout qu'au début, elle a commencé à être plutôt sur un registre timoré. Ça arrive au mauvais moment pour Nathalie Loiseau, parce qu'elle peine à retrouver une dynamique. Elle essayait de grappiller des voix sur la droite et elle a fait justement le procès à la droite aux Républicains de flirter avec le Front National. Donc là, c'est offrir un boulevard à l'opposition qui, évidemment, s'en sert. Donc c'est compliqué pour Nathalie Loiseau. Là.
Yasmina Jaffar, il y a eu dans un premier temps une première dénégation, un démenti la part de Nathalie Loiseau, de son entourage. Et puis bon, il y a eu ces mots.
Exactement, un démenti. C'est assez étonnant de voir qu'elle est entourée peut-être par des personnes qui la conseillent pas de façon probante et intelligente. On se rappelle face à Marine Le Pen sur France 2, quand elle a annoncé sa candidature aussi de façon inattendue, un peu comme si ça n'était pas orchestré. Donc il y a un souci pour assumer ce qu'elle est et ce qu'elle veut faire jusqu'au bout. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire en effet, j'y étais, je le savais. 4 ans d'études, elle est née à ce moment-là, donc elle n'est pas elle n'arrive pas. Elle connaît, elle sait exactement ce qu'il s'agit quand il s'agit d'une liste. Donc aujourd'hui, dire je ne savais pas, j'étais novice, etc. On peut pas la croire, c'est impossible. Donc il aurait fallu qu'elle assume et qu'elle dise parce que j'ai connu ces gens-là de l'intérieur, ils deviennent mes ennemis politiques et c'est le cas depuis 35 ans. Valider ce que je fais depuis 35 ans et on passe à autre chose ensuite parce qu'en soi, ça n'est pas très très important à condition de l'assumer.
Agathe Cagé, effectivement, comme le rappelle à l'instant Yasmina Jaffar, il y a eu ce débat avec Marine Le Pen et Nathalie Loiseau veut se poser en rempart contre le Rassemblement National.
Oui, il y a eu cette déclaration de candidature assez, assez maladroite, tellement téléguidée que le rire de Marine Le Pen était la chose sans doute la plus naturelle et malheureuse, hein, d'un certain point de vue qu'on avait pu entendre sur ce plateau de télé au moment de la déclaration de candidature. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas le fait que les opinions de Nathalie Loiseau aient pu évoluer, et à mon sens, elles ont évolué dans le bon sens. Ce qui me pose problème, c'est l'image qu'elle donne du sens de l'engagement politique. C'est-à-dire, à 20 ans, j'étais à Sciences Po, qui est comme une école, une forme d'école de l'engagement. À 20 ans, j'étais à Sciences Po, on me dit, tu vas être sur une liste, je vais sur la liste, je donne mon nom, mais je ne connais pas mes colistiers, je ne vais pas tracter, je ne sais pas pour quelle liste je me présente et je ne sais pas avec qui je me présente. Et ce sens-là, l'engagement politique, ça m'interroge véritablement. C'est-à-dire,
c'est l'histoire de la République en marche, en résumé.
Vous pensez qu'elle est allée sur la première liste qu'on lui a proposée ?
Je pense qu'elle a vu de la lumière, oui. Et puis elle s'est dit, tiens, on va y aller. Alors, sinon, à part ça, voilà.
Pour vous, c'est vous qui pratiquez la revue de presse sur les planches, est-ce que c'est un sujet en or ?
Non, parce que c'est moi quand j'étais jeune, j'étais président du club de Scrabble à l'école. Bon, j'en suis pas fier, quoi. C'est pour moi c'est à peu près de ce.
Je pense que c'est pas la même chose. On a quand même entendu des semaines et des mois des polémiques parce que vous avez un candidat à l'Eurovision qui a fait un tweet malheureux il y a 5 ans. On lui dit tu dois être responsable de ce tweet malheureux. Là, on a quand même une candidate à une élection tête de liste européenne qui a construit sa candidature contre l'extrême droite, à qui on dit « regarde où tu étais il y a 35 ans » et au lieu de l'assumer, elle est en train de tourner autour du pot, dire « j'y étais mais j'ai pas fait exprès d'y être ». C'est ça qui me pose problème.
Elle a assumé un certain nombre de choses.
Justement, quand elle parle de Sciences Po, c'est très bizarre parce qu'elle dit en plus « c'était un lieu d'ennui ». Et elle explique finalement son engagement sur cette liste parce qu'elle s'ennuyait. Et donc même ça...
Elle aurait eu le temps de regarder.
Elle a suivi un mec, c'est romantique. Voilà. Peut-être que c'était son copain, elle l'a. Et puis ce que je voulais dire, c'est que on peut tous faire des conneries quand on est jeune. Ça va, c'est.
Pour vous, ce n'est pas très grave.
Pour moi, non. Et puis alors, je peux pas être un défenseur de
Loiseau,
Mais oui. c'est moi ce que je trouve très grave, c'est la façon dont elle se défend. Et attention avec Mediapart, parce qu'en général, ils donnent pas tout au début.
Oui.
Donc je pense que demain, après-demain, il va y avoir d'autres informations. Et je crois qu'elle va encore être obligée de se justifier parce que peut-être que ça a duré plus longtemps, peut-être que c'était plus sérieux.
Et peut-être qu'elle savait.
Et peut-être qu'elle savait. Et là, ça va devenir très grave. si ce qu'elle nous dit est vrai, franchement, voilà. Et puis ça prouve que le nouveau monde, hein, parce qu'elle fait partie du nouveau monde en politique, ment aussi, aussi bien que l'ancien.
Ou alors on peut changer d'avis aussi dans sa trajectoire politique.
Alors, si on fait le tour de tous nos hommes et femmes politiques qui ont changé d'avis dans leur carrière, quatre émissions.
Alors Laurent Wauquiez, qui a lancé sa campagne Les Républicains aujourd'hui dans le Calvados.
Sympathisant au Rassemblement National, lui,
a dénoncé Marion Mourgue un double discours de la part de Nathalie Loiseau et s'est interrogé sur le moindre crédit lui restant dans les quatre semaines au fond de campagne qui reste.
C'est de bonne guerre, parce qu'il y a un peu le syndrome de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'elle a tellement fait campagne en expliquant qu'elle était face au Rassemblement National, qu'elle était un rempart et que justement les Républicains ne l'étaient pas, que les Républicains ont beau jeu de renvoyer l'argument en disant bah, finalement vous aviez pas tout mis sur la table. Donc oui, c'est plus compliqué pour elle maintenant de faire campagne et on voit bien que les Républicains vont marteler ça pendant 4 semaines maintenant.
Yasmina Jaffar, peut-être une fois de plus, comme dans la vie politique, la machine est implacable, on le verra tout à l'heure avec François Fillon en se remémorant ce qui s'était produit il y a 2 ans, peut-être il lui fallu éteindre l'incendie de façon plus catégorique.
Exactement. Aujourd'hui, on voit en effet que François Fillon est rattrapé et se retrouve en correctionnel aussi parce que ça aurait été beaucoup plus simple de ne pas se défausser. Ça apporte une image assez négative aux femmes et aux hommes politiques qui passent leur temps à se dire « on va y échapper, de toute façon, ça ne se verra pas ». Si ça se voit, donc il aurait fallu assumer très rapidement pour pouvoir dire ensuite aux différents Yann Brossa, qui a été assez fameux ce matin, qui est une opposition, assez incroyable. Laurent Wauquiez, qui oublie lui-même ses propres casseroles et qui se jette, et ils font leur travail d'opposition, c'est normal, c'est logique. Mais Emmanuel Macron a mis des semaines et des semaines à trouver un candidat pour les européennes. On l'a trouvé, et patatras, ça fonctionne pas. Et il faut assumer dans ces cas-là, et quand est-ce que le personnel politique va comprendre que ça n'est pas grave dès l'instant où on regarde les yeux dans les yeux, pour reprendre une phrase connue,
son passé. Elle a été fatale à celui qui l'a dit. J'ai dit cette phrase,
regardez
les yeux dans les yeux, c'était Jérôme Cahuzac.
Justement, parce qu'il a menti, moi, si je dis les yeux dans les yeux, c'est parce que justement, elle doit regarder les Français et l'opposition les yeux dans les yeux en disant c'est vrai, c'est le cas. Réellement, réhabiliter cette phrase du coup.
Marion Bourgue, sur la suite de la campagne, il ne reste, faut-il le rappeler, que 4 semaines après tout.
Ah bah parce qu'elle est démarrée.
Ça c'est aussi un sujet que l'on va évoquer dans un instant.
Oui. Alors là, Nathalie Loiseau a un passage média demain matin, donc on sent qu'elle va essayer de se rattraper. Surtout, En Marche n'a toujours pas publié son programme, qui devait être le 25 avril et qui est reporté au 9 mai, soit juste 15 jours avant l'élection. Donc c'est aussi ça qu'on attend, c'est d'avoir le programme d'En Marche.
Bah, le programme d'En Marche, il est clair. C'est nous sommes le rempart aux extrémismes et au populisme.
Et voilà. Ça c'est un slogan, mais ça fait pas forcément un programme.
Mais malheureusement, c'est leur seul programme à leur appel.
Allez, 20h et 20 minutes.
Ils ont 15 jours pour l'écrire.
Ouais, 20h et 20 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
Pour la première fois, la justice reconnaît en partie les effets néfastes pour la santé des compteurs électriques Linky. Plus de 200 plaignants avaient saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux. 13 d'entre eux, électrosensibles, obtiennent gain de cause. Enedis devra poser des filtres anti-champs électromagnétiques sur leurs compteurs. Il est resté presque 6 heures retranché dans son domicile. L'ancien militaire qui retenait les 3 otages à Lourdes a été finalement interpellé. Le raid est intervenu peu avant 17h. La compagne du forcené, l'une des otages, est blessée. Ses jours ne sont pas en danger. L'homme avait déjà été condamné à 3 reprises pour violence conjugale. Les autorités accusent un mouvement islamiste local, mais l'État islamique revendique les attentats d'avant-hier au Sri Lanka via son organe de propagande. Ces attaques ont fait au moins 320 morts et plus de 500 blessés. Le trafic aérien suspendu demain à Mayotte. Une forte tempête tropicale va passer près de l'île. Les écoles seront fermées. De fortes pluies et des rafales jusqu'à 100 km/h attendues. Jusqu'à 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans les prochaines semaines. C'est ce que révèle un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité. L'homme a déjà fait disparaître au moins 680 espèces de vertébrés depuis 500 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant la situation dans laquelle se trouve Nathalie Loiseau. De quoi faire les choux gras, évidemment, de l'opposition et de ses rivaux, à 1 mois du scrutin, à l'image de Yann Brossa, que vous évoquiez à l'instant, Yasmina Jaffar, la tête de liste du Parti communiste, qui était l'invité de France Info ce matin.
Ça fait longtemps, on a le droit de changer d'avis. Je crois que j'avais 4 ans quand elle était candidate sur cette liste. Cela dit, quand on voit toute la communication faite par La République En Marche qui se présente comme seul rempart face à l'extrême droite, c'est sûr que tout cela fait un peu désordre. Et puis par ailleurs, les explications qu'elle avance pour justifier le fait d'avoir été présente sur cette liste sont peu convaincantes. Quand elle dit « je n'ai pas perçu la couleur politique de cette liste », alors même qu'elle était en quatrième année de Sciences Po et qu'elle préparait l'ENA, c'est vrai que ça laisse pantois. C'est un peu la Richard Viringue de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré.
Christophe Lévesque, vous auriez pu la faire celle-là. Hein
oh, c'est très très... Mais c'est... Oui, il a bien résumé. C'est le et comme il le dit voilà on fait tous des erreurs dans notre jeunesse, c'est pas ça le problème, mais elle qui est bon est plus jeune continue d'en faire, et c'est ça qui est grave, et je trouve que c'est moi symptomatique de l'inverse de ce qu'on nous avait promis, ce fameux nouveau monde de la transparence, de etc. Mais on savait pas que c'était un sketch au départ. Et petit à petit, on s'aperçoit que finalement, c'est les mêmes avec
pour
le
vous,
même
ça
discours,
rien n'a changé.
Les mêmes. Ah ben non, mais rien n'a changé, mais absolument rien du tout.
Agathe Cagé.
Nathalie Loiseau est en train, par sa façon de répondre, de transformer quelque chose qui aurait pu paraître comme anecdotique en un vrai sujet politique. On n'est pas en train de parler d'une élection de délégué de classe quand elle avait 12 ans et qu'elle voulait être à la tête de sa classe de 5e. On est en train de parler d'un choix politique étudiant sans doute assumé à l'époque. Elle aurait pu répondre « Oui, j'étais sur cette liste qui était une liste qui mélangeait la droite et l'extrême droite. J'ai évolué politiquement et aujourd'hui, mon combat est un combat contre l'extrême droite. » C'était extrêmement simple de dire cela. C'est communicant, on commençait par répondre « Non, c'est faux, Mediapart ment. » Ensuite, elle a répondu « Ah oui, c'est vrai, mais je ne m'en souvenais pas, j'ai dû creuser. » Et maintenant, c'est « Ah, j'y étais entraînée par un ami, j'aurais dû regarder de plus près. » Le problème, c'est qu'elle est en train elle-même de construire le sujet politique. C'est pas l'opposition qui polémique autour de ce sujet, c'est sa façon de répondre à l'article de Mediapart qui est en train d'en faire un véritable sujet, parce qu'elle ne fait pas le choix d'assumer, or politiquement, des choix politiques doivent être assumés. C'est une responsabilité, c'est une responsabilité d'autant plus forte quand on est... candidat tête de liste pour les élections européennes.
Il y a un autre aspect, Marion Mourgue, qui est évoqué dans le Figaro ce matin, avec une enquête sondage Harris Interactive et POCA, qui révèle que bien que, au fond, les réserves de voix de La République En Marche, elles se situent à droite.
À droite, bah, c'est la stratégie d'En Marche depuis la présidentielle, c'est-à-dire que juste avant, En Marche avait réussi à siphonner les voix de la gauche, désormais la stratégie c'était de siphonner les voix de la droite. Or, avec ce genre d'affaires, et avec le candidat François-Xavier Bellamy qui séduit plutôt l'électorat LR, ça va être compliqué de réussir cette stratégie politique. Or, c'est vrai que c'est la seule manière pour En Marche de grappiller des voix et de se maintenir soit en premier, soit même d'être plus fort que le Rassemblement National.
Alors je rappelle le chiffre, l'un des chiffres qui est révélé par Harris Interactive, c'est que 44% des sondés estiment que le projet de Nathalie Loiseau est proche de celui Yasmina Jaffar, des Républicains, un sentiment partagé par 63% des sympathisants républicains. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN qui colle entre les deux formations. Et c'est vrai que cette affaire vient un petit peu brouiller les pistes.
Oui, complètement, surtout que Monsieur Bellamy, qui ne sera pas, je pense, mais on en parlera après par rapport à Monsieur Fillon, ne sera pas entaché par cette histoire qui a peut-être traumatisé la droite, mais en tout cas ne sera pas entaché par le procès Fillon, et arrive avec un visage nouveau, des propositions pas forcément nouvelles, mais en tout cas qui entre en relation directe avec l'électorat de DLR, ce que n'arrivait pas à faire Laurent Wauquiez pendant ces derniers mois. Donc il y a une volonté de le suivre, et Emmanuel Macron en proposant un programme qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas en s'alliant un petit peu à cette ligne-là, pouvait essayer de consolider son socle qui est de 22-23%, qui est son socle naturel. Donc c'était très intéressant. Mais là, du coup, on ne sait plus, quitte à voter pour quelqu'un, autant voter pour l'original.
Parce que les deux familles, Agathe Cagé, elles défendent à peu près la même idée, hein, la même Europe, mais mieux, plus d'Europe.
Oui, enfin, surtout indépendamment de la ligne européenne. Emmanuel Macron mène une politique de centre droit, voire de droite. Même les économistes qui ont fait sa campagne disent, on nous disait en même temps, on a vu la jambe néolibérale de la politique, on voit pas du tout l'autre jambe, donc c'est quelque chose d'assumé. Nathalie Loiseau, dans sa défense, dit bien oui, je suis de droite, ce n'est pas une nouvelle. Donc il a mis une candidate de droite à la tête de la liste La République En Marche. Oui, c'est une liste menée par une candidate de droite avec une ligne de droite, quelques personnalités choisies à droite et à gauche, mais c'est pas étonnant que les électeurs considèrent qu'il y ait des points de ressemblance, vu que c'est une politique entre le centre-droit et la droite des Républicains.
D'où l'idée à l'origine du choix, Marion Bourque, de Nathalie Loiseau, qui est issue des rangs, on le sait, jupéistes, qui était censée séduire les électeurs des Républicains pour qu'ils rejoignent la liste Renaissance.
Le choix d'une jupéiste était en effet grappillé vers le centre-droit et les Républicains qui, depuis 2 ans, ne se retrouvaient plus dans la ligne de Laurent Wauquiez.
Allez, on restera sur...
Elle va peut-être grappiller au Front National. Hein.
Christophe, allez, on se retrouve dans quelques minutes après le rappel de la météo et le retour des infos. Et nous évoquerons effectivement les européennes et le retour de François Fillon. À tout à l'heure.
Pollen, acariens, bactéries, virus, moisissures, poils d'animaux, formaldéhyde, tous ces polluants et allergènes sont retrouvés dans nos maisons. En fait, l'air intérieur peut être 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La bonne nouvelle est que le purificateur Dyson PureCool capture plus de 99% des particules aussi fines que les virus chez vous pour que vous ne les respiriez plus. Dyson PureCool, changez d'air. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Bienvenue à notre jeu, la culture, c'est pas...
Dire !
Nous accueillons Marion, présentez-vous.
Marion, 42 ans, 3 jours, 5 heures, 33 minutes et 23 secondes. Non, 24. Je travaille chez Daikin. Nous faisons des pompes à chaleur. Elles font du chaud, du froid, au degré près pour un confort optimal toute l'année. En plus, en ce moment, vous avez jusqu'à 1 an de loisirs offerts pour l'achat d'une pompe à chaleur multi-split Daikin et de moins 1 unité intérieure stylish.
Bon, merci, envoyez la pub.
Daikin, l'obsession de la précision depuis 1924.
Offre soumise à condition, modalité complète sur daikin.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac de Météo France.
Averses et vent demain, il pleuvra le matin entre le nord-ouest et le sud-est, des pluies parfois orageuses avec du vent fort. Au fil des heures, les pluies remonteront vers le nord et l'est du pays. On les retrouvera l'après-midi à l'est du Rhône, jusqu'au massif central et au nord-est. Partout ailleurs, le temps deviendra changeant avec là aussi du vent, de petites éclaircies, des averses. Les averses seront plus nombreuses et parfois orageuses sur le nord-ouest l'après-midi, très éparses sur le sud-ouest avec des éclaircies plus belle même au sud de la Garonne. Côté thermomètre, encore une baisse, 7 à 13 degrés le matin. L'après-midi, 14 degrés à Dinard, 17 à Dives, Saint-Étienne, Nîmes, Biarritz, 18 à Bourges, Bordeaux, Lyon, encore 20 degrés à Paris, 22 à Lille et 25 à Strasbourg.
20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Toute l'info avec vous. Bonsoir, mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le couple Fillon, rattrapé par les soupçons d'emploi fictif plus de 2 ans après l'ouverture d'une enquête qui a entraîné la chute politique de François Fillon. Eh bien, les 3 juges du pôle financier de Paris renvoient donc l'ancien Premier ministre et son épouse Pénélope en correctionnel. Pas de date fixée pour le procès. Alors que le retour de la pluie est attendu demain sur Paris, les travaux de bâchage de Notre-Dame de Paris ont débuté aujourd'hui. Ils ont commencé par l'intérieur de la cathédrale. 8 jours après l'incendie, la Fondation du patrimoine elle annonce que 163 millions d'euros provenant de plus de 160 pays ont été collectés pour financer la reconstruction du monument. 200 particuliers de Gironde avaient saisi la justice à Bordeaux pour demander l'arrêt de la pose du compteur électrique communicant Linky. Le juge des référés a certes reconnu aujourd'hui, mais pour seulement 13 d'entre eux qui ont réussi à démontrer leur électrosensibilité, et bien que les ondes dégagées par l'appareil ont un impact sur leur santé. La justice a donc contraint Enedis par cette décision à leur poser un filtre. C'est une première petite victoire timide. 193 autres ont tout de même été déboutés. Mais maître Pierre Urmic, qui défendait les plaignants, se réjouit tout de même.
Le juge des référés reconnaît qu'il y a quand même un trouble par manquement au principe de précaution, que l'installation d'un compteur Linky sans la pose d'un filtre ne protège pas suffisamment des champs électromagnétiques. C'est une argumentation tout à fait nouvelle, puisque jusqu'à présent, l'argumentation adverse, c'est que les champs électromagnétiques ne présentaient absolument aucun risque pour la santé. C'est une première brèche. Je vous l'accorde, on préférerait qu'on puisse obtenir l'interdiction de pose de l'ensemble des compteurs Linky, mais le fait de mettre un filtre, c'est quand même reconnaître que c'est pas inoffensif pour la santé.
À la Paul Vauquin, maître Pierre Urmic au micro de Stéphanie Brossard de France Bleu Gironde. Le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études de santé à la rentrée de septembre augmentera de 10% par rapport à l'an dernier dans les quatre filières médecine, pharmacie, dentaire et sage-femme. Emmanuel Macron avait promis la suppression du numerus clausus à partir de l'an prochain, qualifiant le système d'absurde. Plusieurs personnes retenues en otage pendant plusieurs heures dans un pavillon à Lourdes par un homme armé. Il a été arrêté par le RAID dans l'après-midi, après avoir blessé par balle son ex-épouse. Le forcené, un ancien militaire, avait déjà été condamné à 3 reprises pour des violences sur elle. En Birmanie, la Cour suprême rejette le recours déposé par 2 journalistes de Reuters, condamnés à 7 ans de prison après avoir enquêté sur un massacre de Rohingyas. Cette décision pourrait encore attiser les tensions avec la communauté internationale, alors que le travail des 2 reporters est salué et récompensé à travers le monde entier. Les informés, ça continue tout de suite sur France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, Agathe Cagé, politiste, présidente du cabinet de conseil Compass Label, et Christophe Alévèque, comédien humoriste en tournée pour sa revue de presse sur les planches. Nous l'avons presque oublié. Plus de 2 années après l'ouverture de l'enquête qui a entraîné sa chute, eh bien la justice a décidé d'envoyer François Fillon ainsi que son épouse Pénélope et son ancien suppléant Marc Joulot devant un tribunal correctionnel. Il y aura donc un procès à une date qui reste évidemment à définir. François Fillon se sera battu jusqu'au bout. Des révélations du canard enchaîné du 25 janvier 2017 sur les rémunérations de son épouse jusqu'au premier tour de la présidentielle, celui qu'il ne devait pas perdre, quand même arrivé troisième avec 20% avant de disparaître littéralement de la vie politique. Pour la nouvelle génération des Républicains, cette histoire appartient au passé. Écoutez le député LR, Pierre-Henri Dumont, âgé de 31 ans seulement, invité du 19-20 politique sur France Info.
François Fillon, qui était le candidat de notre famille politique à la présidentielle, il faut également respecter la présomption d'innocence. Moi, tout simplement, ce que je vois, c'est que les chefs d'accusation, vous l'avez dit, sont extrêmement graves. C'est-à-dire que François Fillon est sorti du jeu politique, c'est à la justice de traiter la question et le sujet. Mais il y a des personnes, aujourd'hui, Jordan Bardella, tête de liste aux élections européennes pour le Rassemblement National, et lui, accusé d'avoir été un de ses assistants parlementaires fictifs qui, en réalité, ont travaillé non pas au Parlement européen, mais au siège du Rassemblement National, du Front National à l'époque.
Marion Mourgue, on l'entend au mot prononcé par ce député, ce jeune député, les Républicains du Pas-de-Calais. Au fond, l'évocation de François Fillon, quelque part, ne provoque plus rien. C'est-à-dire, on parle déjà de la politique d'aujourd'hui, de ce qui se passe. Il appartient déjà à l'histoire.
Je dirais pas qu'il ne provoque plus rien, mais ça fait 2 ans que c'est très dur pour les Républicains d'exister, et ils se disent qu'ils sont en train de sortir la tête de l'eau. Donc il y a une volonté des Républicains de ne plus commenter cette affaire et de la laisser au passé. Et aucun filloniste aujourd'hui n'avait envie de s'exprimer et de commenter le renvoi en correctionnel de François Fillon. Donc c'est plus une volonté de dire bon, c'est passé, ça concerne la justice et laissez-nous avancer.
Yasmina Jaffar, ce procès qui aura lieu un jour, hein, oui. Peut-être à la fin de l'année, c'est du moins ce qui est avancé, ce sera le procès de l'ancien monde politique où, comme oui. Le dit Christophe Alévèque, les choses n'ont pas tellement changé finalement.
Là, on a le sentiment, c'est un ressenti, qu'en effet, il s'agit un peu de l'ancien monde. Mais en effet, les choses n'ont pas changé quand il s'agit de la défense de Nathalie Loiseau. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, le visage et la proposition de Laurent Wauquiez par rapport à Bellamy prouvent qu'il y a une volonté d'avancer complètement. Et comme un seul homme, ils ont aujourd'hui sont promenés sur les plateaux télé pour tous dire, l'âge à peu près autour de celui de Jordan Bardella, c'est une autre histoire. Nous ne sommes plus du tout dans l'ancien monde. On est peut-être triste pour lui, mais en tout cas, ça n'est plus. C'est notre famille, mais il a démissionné par son attitude. Et son attitude, on la cautionne pas. Voilà, donc ça fait partie presque du registre privé aujourd'hui, et la justice va s'en occuper, et c'est le temps long de la justice aussi. Ouais, donc, ouais. Et ça accorde aussi aux Français la possibilité de se dire, la justice fait aussi son travail. Donc c'est comme message, vu l'époque actuelle, c'est intéressant.
Christophe Alévèque, on se souvient de la phrase de départ, hein, c'était la fin de l'été 2016, qui se souvient, le général de Gaulle mis en examen. Vous pensez aujourd'hui que la droite ne se remettra jamais de cette présidentielle?
Mais moi j'imagine toujours que la droite fait un concours de nullité avec la gauche. Et la gauche qui a mis déjà le niveau assez haut, hein, quand même.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, c'est-à-dire que nous avons l'opposition la plus nulle du monde, globalement. À chaque fois, voilà, on revoit la tête de Fillon. Je ne comprends pas, la droite qui s'est suicidée. Avec ses primaires qui sont une connerie fabuleuse, mais ça je pense que tout le monde aura compris. La droite qui avait un tapis rouge, Juppé était à 122% dans les sondages, il suffisait de le choisir. Il y avait, souvenez-vous à l'époque, il n'y avait pas d'élection. C'est-à-dire qu'on allait à la pêche tout de suite.
Oui, enfin, un candidat là, qui n'a pas réussi à gagner une primaire, je ne suis pas certain qu'il aurait réussi à gagner une présidentielle. Hein.
Surtout que sur le terrain, c'était pas le même effet que dans les sondages.
Oui, enfin, il aurait pris, visiblement, il prenait des voix au centre. Je pense que Macron aurait à peine existé, et ce qui aurait été très bien pour nous. Et voilà, et il choisit ce gourde de candidat. Et ce que je n'ai pas compris après, c'est que quand l'affaire éclate, tout de suite, il fallait lui dire, disons mon vieux, là, dégage, et puis
Je pense qu'il se sent évertué à lui dire, mais il n'a pas voulu entendre. Oui. On se rappelle bien de cette volonté qu'il avait.
Les vertus de la démocratie.
Voilà, il avait envie de ne pas changer d'avis. Encore une fois, c'est vrai que ce matin, par exemple, Nathalie Loiseau, vous le rappeliez très bien, elle a changé 4 fois de discours en un jour. Ça a été un record. Et lui, dans l'autre sens, pendant 4 mois, n'a pas voulu lâcher prise. Et les gens sont partis. Les gens de son parti sont partis les uns après les autres. Et c'est ça qui l'a quasiment suicidé.
Mais souvenez-vous même, à l'époque, sa tête sur les plateaux de télé, où il ne se rendait pas compte, parce que pour lui, c'était normal.
Oui.
Oui, j'ai fait bosser ma femme. Il avait même dit, pas que ma femme, mes enfants aussi. C'est-à-dire qu'il avait précédé le mouvement.
C'est pour ça que le temps de la justice qui s'ouvre aujourd'hui est un temps important. C'est normal que les Républicains essaient de sortir François Fillon et l'affaire Fillon du spectre des discussions. Mais c'est normal que le temps de la justice soit un temps important, parce que les Français ont vu monter, avec les sorties du canard enchaîné, des problèmes de comportement politique, de détournement de biens publics, de comportement frauduleux extrêmement importants. Et ils ont besoin aussi de voir une justice qui fait son travail, de personnes dans le respect de la présomption d'innocence aujourd'hui, mais de personnes qui soient jugées, si elles sont coupables, qui soient jugées coupables avec des peines extrêmement fortes. Dans un des derniers procès de responsable politique important qu'on a vu, celui de Jérôme Cahuzac, à la fin, M. Cahuzac ne fait pas de prison ferme. Mmh. Ça interroge aussi les Français sur le fait qu'on ait pu parfois avoir le sentiment dans ce pays qu'il y a une justice à deux vitesses pour les hommes politiques
mais
et pour les autres.
Il a été condamné, Jérôme Cahuzac.
Il a été condamné.
Il purge sa peine tout de même.
Il a été condamné, mais ça a été une interrogation sur le niveau de peine et sur le fait qu'il n'ait pas fait de prison ferme. Et je pense qu'on regardera, les Français regarderont de près la peine s'il est condamné qu'aura François Fillon et son épouse.
La seule question aujourd'hui, c'est que manifestement, les avocats de François Fillon ont été au courant après la presse du renvoi en correctionnel. Donc là aussi, dans cette affaire, il y a plusieurs affaires imbriquées et ça pose parfois question sur le secret et la justice.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
En Égypte, les pouvoirs du président Sissi renforçaient la réforme constitutionnelle largement adoptée par référendum avec 88% des voix. Le texte allonge de 2 ans le mandat du chef de l'État. Il l'autorise également à se présenter une 3e fois à la présidentielle. Moins d'un Égyptien sur 2 a voté. Le taux de participation est de 44%. Des milliers d'étudiants, une fois de plus, dans les rues d'Algérie. Ils réclament le départ du système et le jugement des personnalités liées au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Manifestation après l'arrestation de puissants hommes d'affaires ces derniers jours. Parmi eux, des proches de l'ancien chef d'État. Le ministre de l'Intérieur dénonce sur Twitter une polémique insignifiante pour salir et descendre Nathalie Loiseau. La tête de liste de la majorité aux européennes a fait partie d'une liste d'extrême droite à des élections étudiantes. C'est une révélation de Mediapart. C'était une vraie connerie, une erreur de jeunesse, réagit l'ancienne ministre sur France Info. Le Conseil d'État rejette 4 demandes de rapatriement de Françaises retenues en Syrie. Elles sont dans des camps kurdes avec leurs enfants. Cette décision ne relève pas de la justice, mais de la diplomatie française, explique le Conseil d'État. Et puis pour la première fois en France, une femme va diriger un match de Ligue 1. Stéphanie Frappart, 35 ans, arbitrera la rencontre entre Amiens et Strasbourg ce dimanche. Jamais une femme n'avait été désignée comme arbitre central d'un match de première division.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
À Agathe Cagé, une femme arbitre, comme l'évoque à l'instant Guillaume Fariol, c'est bien, non?
C'est très bien. Hein, c'est très très bien, mais je répondrai à cette question une fois qu'on l'aura vu arbitrer ce match. Mais a priori, c'est très bien, comme c'était très bien d'avoir une femme entraîneuse d'un club de L2 masculin.
Allez, vous êtes tous d'accord, j'espère.
Je suis pas un grand fan de foot, moi, on peut faire ça.
Mais je vous ai vu réagir qui on veut. Positivement pendant les titres, quand même.
Voilà. Oui, bah, évidemment.
Allez.
Je pense que l'attitude des joueurs devrait changer. Il y a déjà eu des expériences de. Moi, j'avais vu un match arbitré par une femme en deuxième division, et l'attitude des mecs change complètement pendant le match.
Allez, nous sommes à un mois du scrutin et surtout à l'avant-veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Nous allons l'évoquer. La campagne des européennes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christophe Alévèque. Eh bien, pendant ce temps, est en panne sèche. Et pourtant, les candidats, eh bien, ils tentent tant bien que mal de faire campagne, comme l'a expliqué Emmanuel Morel, numéro 6 sur la liste de la France insoumise, fondateur de la gauche républicaine et socialiste. Il est député européen sortant, invité de Territoire d'Info sur Public Sénat.
En ce qui nous concerne, nous avons commencé la campagne en décembre. Il y a 300 événements de campagne par semaine. Moi, j'en suis déjà à 35 réunions publiques. Et j'en ai encore une trentaine. Mais le problème, c'est que la campagne, elle peine pour l'instant à se mettre en branle. Et surtout, notre principal problème à nous, c'est de mobiliser les électeurs. Et donc pour ça, c'est de montrer les implications concrètes, quotidiennes, des politiques européennes dans leur vie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Manon Aubry.
Marion Mourgue, est-ce qu'il faut s'en émouvoir ?
Oui, vu les enjeux. Mais on sait que les élections européennes ont du mal à mobiliser, quelles que soient les élections, enfin, quelle que soit l'année. Là, on a un double processus. C'est que, parallèlement, on a le grand débat et on voit qu'Emmanuel Macron étire cette séquence pour arriver jusqu'aux européennes. Donc, c'est compliqué qu'il y ait une fenêtre de tir pour les gens, pour qu'ils aient le temps de s'y intéresser, qu'ils connaissent les programmes. Ils les ont pas tous sur la table. Et on voit que les médias sont plus sur le grand débat pour suivre l'actualité. Donc c'est manifestement une stratégie politique.
C'est la séquence grand débat, Christophe Alévèque, grand débat, et puis on attend des mesures qui écrasent au fond le débat politique et notamment la campagne des européennes.
C'était un peu cousu de fil blanc au départ, comme vient de le dire madame. De toute façon,
Marion Mourgue.
La République En Marche n'a rien de nouveau à annoncer pour les européennes, à part l'Europe, c'est magnifique, c'est beau, c'est la paix.
Vous pensez pas plutôt que c'est le débat national qui prime finalement et toute la classe politique, mais les européennes...
Il aurait été plus judiciable d'ailleurs que les résultats du grand débat, parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour synthétiser autant...
L'intelligence artificielle,
voilà. Oui. Mais enfin, bref, c'est moi j'ai du mal à le croire, mais ils auraient mieux fait de reporter ça après et puis laisser la place au débat pour les européennes, parce que c'est vachement important. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On attend jusqu'à jeudi. De toute façon, les élections européennes, on s'en fout. Et à partir de vendredi, on met une bâche sur Notre-Dame, voilà. Comme on l'a entendu, et on va parler de la bâche sur Notre-Dame. Et puis lundi, il se passera quelque chose.
On n'en parle pas ce soir de la bâche. Yasmina Jaffar, pourtant, les médias, France Info notamment, multiplient les reportages, les encadrés. Nous traitons le sujet des européennes, mais ça n'accroche pas la lumière.
Non, ça n'accroche pas. Et 60% en 2014, d'abstention. C'est vraiment incroyable à quel point cette élection n'attire pas les Français, ne l'a jamais attiré. Il n'y aura pas non plus d'effet gilet jaune. On aurait pu croire avec cette idée de liste d'Ingrid Levavasseur.
Ça avait été dit, hein. Oui,
exactement.
Qui aura un effet finalement.
Et qu'en fin de compte, pas vraiment. Et en plus, ce qui est assez dommageable, c'est que l'Europe est le sujet d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il a été le président qui a fait en sorte que nous puissions nous rendre compte que nous faisons partie d'une Europe. Et ça aurait pu être son vaisseau amiral, et ça l'est pas du tout, parce que abîmé évidemment par le grand débat. Mais en effet, Marion a totalement raison. Il tire sur cette séquence pour en faire une élection nationale. Et il y a aussi la proposition des autres partis envoyer une jeunesse.
Mais vous dites quoi? Qu'il y a une stratégie délibérée derrière cet étirement du grand débat national?
Pour que ça devienne une élection nationale, parce que depuis toujours, ça n'a jamais intéressé les Français, et c'est un peu le deuxième round de l'élection présidentielle, parce qu'en plus les chiffres de popularité d'Emmanuel Macron sont assez bas, ne remontent pas, même s'il a eu, grâce au grand débat, quelques petites remontées, et ça serait intéressant pour lui de gagner les européennes sur fond de revendications nationales.
Agathe Cagé, vous êtes d'accord avec ce point de vue, au fond, il y aurait une sorte de stratégie qui permettrait au chef de l'État de manger sur la campagne des européennes et d'enjamber l'élection.
En tout cas, il y a une stratégie claire du chef de l'État qui était de faire des européennes un une opposition entre le progressisme, lui tout seul, et les nationalistes,
et les populistes
nationalistes, tout le reste. C'était, à mon avis, une stratégie extrêmement dangereuse, parce que ça réduit le débat sur les élections européennes, qui est un débat central, à une opposition entre lui et le reste du monde. Il y a quand même quelque chose, un épisode assez symptomatique de ce que sont aujourd'hui ces élections européennes. C'était le grand débat entre tous les candidats sur France 2. On a eu pendant 10 jours un
débat
sur le nombre de participants au débat. Donc pendant 10 jours, on n'a parlé que de ça, pas du tout de ce qu'allait être le fond de ce débat. Yann Brossat a eu vers 23h un mot assez intéressant en disant
décidément,
maintenant il est 23h et on va enfin parler de l'emploi. C'est-à-dire que c'est vrai que l'ensemble des sujets traités jusque-là pendant 2h30, essentiellement consacrés à la question de l'immigration et deux ou trois autres points, n'étaient pas forcément les premiers points que les Français attendaient pour essayer de comprendre le débat sur les européennes. Or, oui, l'Union européenne et les députés qu'on va envoyer au Parlement européen auront aussi un rôle sur l'évolution de l'Europe sociale, de l'Europe économique et du choix et de la direction sur énormément de sujets que nos pays vont prendre. Et je pense que cette année, les européennes auraient dû avoir un rôle plus important dans le contexte du Brexit et que malheureusement, la manière dont le débat se construit, il y a des responsabilités politiques évidentes.
Brexit qui est le sujet qui aura écrasé les autres sujets sur l'Europe. Marion Mourgue et puis Christophe Lévesque.
Cette stratégie peut être compliquée sur le long terme pour Emmanuel Macron parce qu'à force de saturer l'espace et de faire des élections européennes une sorte de mid-term du quinquennat, eh bien, toutes les oppositions peuvent aussi transformer cette élection européenne en référendum anti-Macron et on le voit, l'opposition à sa politique et au gouvernement a tendance à croître depuis plusieurs mois, donc c'est peut-être très risqué.
Christophe Lévesque.
Quand on pense que Macron, au départ, avait annoncé qu'il aurait, vous rappelez, la parole rare, on n'entend que lui. Pourquoi je pense les gens ne s'intéressent pas à juste raison à mauvaise aux élections européennes, c'est parce qu'ils ont vraiment le sentiment ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qu'ils vont élire...
Vous
d'abord,
ne pensez pas que le regard sur l'Europe a changé là-dessus quand même.
Alors non, parce que j'entendais parler tout à l'heure du Brexit, je pense que ça a renforcé encore les gens dans le fait que, de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on vote, l'Europe est un rouleau compresseur. Là, je vous parle de ce que j'entends, ce qui revient, c'est-à-dire que les Britanniques ont voté... C'est leur choix, peu importe. Ils veulent sortir de l'Europe. Ils n'arrivent pas à le faire.
Oui, mais les enquêtes démontrent, du moins Christophe Lévesque, que l'implication de l'Europe dans le quotidien des individus.
On se sent plus concerné qu'avant.
Peut-être
qu'il
y a une meilleure perception des choses aujourd'hui.
Il
y a une forme d'évolution.
Mais non seulement ça,
c'est
hyper important. Et puis tout ce qui est décidé à Bruxelles, et c'est au quotidien pour nous, c'est hyper important. Est-ce que les gens pigent vraiment ça, quoi?
La dernière campagne présidentielle, il y a un vrai sentiment d'attachement à l'Europe qui est exprimé chez tous les Européens, de la Grèce à la France, et notamment chez les jeunes, qui sont encore plus attachés à l'Europe que les générations plus âgées. Donc ça, c'est bon signe. Par contre, est-ce que les Français considèrent, au moment d'aller voter, qu'il y aura des réponses dans ce qu'il leur est proposé par rapport à ce qu'ils attendent de l'Europe? Aujourd'hui, non, ou très peu. C'est aussi pour ça que cette élection ne mobilise pas, parce qu'il y a un rejet, une méconnaissance de l'Europe, il y a un amour de l'Europe et une assez bonne connaissance, mais parce que la réponse politique ne paraît pas en adéquation avec les attentes.
En tous les cas, la campagne des européennes est quand même fortement concurrencée par le grand débat national, du moins non plus la restitution, mais l'annonce des mesures. On va en dire quelques mots dans un instant, si vous le permettez. Pour l'heure, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info, Guillaume Fariol.
L'avocat de François Fillon, très critique après le renvoi devant la justice de l'ancien Premier ministre. Maître Antonin Lévy dénonce sur France Info la mauvaise foi des juges d'instruction et une volonté de sauver l'enquête. Le candidat de la droite à la dernière présidentielle sera jugé dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope. Elle aussi est renvoyée devant la justice. L'homme qui a pris en otage 3 personnes à Lourdes, déjà bien connu des services de police, cet ancien militaire a été condamné à 3 reprises pour violence conjugale. Il est resté retranché dans son domicile cet après-midi avant une intervention du RAID. Parmi les otages, son ex-compagne, blessée. Ses jours ne sont pas en danger. Enedis devra poser des filtres anti-champs électromagnétiques chez 13 de ses clients équipés de compteurs électriques Linky. Le tribunal de grande instance de Bordeaux reconnaît en partie les effets néfastes sur la santé de ces compteurs nouvelle génération. Il n'y a finalement aucune victime française après les attentats au Sri Lanka avant-hier. Les autorités locales reviennent sur leur annonce. Le Quai d'Orsay confirme. Cette série d'attaques revendiquées par l'État islamique a fait au moins 320 morts. Plus de 163 millions d'euros collectés pour la reconstruction de Notre-Dame par la Fondation du Patrimoine. Des dons en provenance de plus de 160 pays. 8 jours après l'incendie de la cathédrale. Et justement, une bâche est installée en ce moment sur Notre-Dame. Il faut protéger le bâtiment de la pluie qui pourrait encore plus fragiliser la structure.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Marion Mourgue, est-ce que l'on sait pourquoi il aura fallu attendre jusqu'à jeudi pour qu'il y ait cette conférence de presse présidentielle pour l'annonce des mesures sorties du grand débat national ?
C'était compliqué pour Emmanuel Macron de reprendre la main alors que les annonces avaient fuité dans la presse. Et puis, il y a eu la suite de Notre-Dame et le week-end pascal. Donc, c'était aussi compliqué de s'exprimer devant les Français au moment où il y avait des fêtes religieuses.
Ça aurait pu être ce soir.
Ça aurait pu être ce soir, mais il y avait le Premier ministre japonais et donc un agenda diplomatique assez chargé.
Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces annonces, Marion Mourgue ? Est-ce qu'on va vers quelque chose de renversant ? Souvenez-vous des mots du Premier ministre Édouard Philippe qui avait parlé de mesures puissantes, concrètes, qui ouvriront de grands chantiers.
Alors, je suis pas sûre que, comme disait la porte-parole aussi du gouvernement, il y ait un avant et un après annonce. Je pense que jeudi, en tout cas, on connaît déjà tout. Je pense que le président va confirmer ses annonces. La seule nouveauté, c'est cette conférence de presse. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il l'organise depuis le début du quinquennat. Lui qui avait plutôt tendance à tenir à distance les journalistes, voire à les mépriser. Donc, c'est surtout ça qui est de nouveau. Il y a un propos liminaire d'une trentaine de minutes. Il y a ensuite une série de questions-réponses de 2 heures, voire plus. Et c'est peut-être pendant ces questions-réponses qu'il peut y avoir de la nouveauté.
Yasmina Jaffar, l'exercice va ressembler à un énième grand débat national.
Oui, ça va être un enjeu.
Dernier, d'ailleurs.
Le grand débat avec les journalistes.
Oui, exactement. avec des corps intermédiaires qui pourront s'y greffer, des journalistes français et étrangers. Oui. C'est un exercice qu'il n'apprécie pas plus que ça parce qu'il préfère être en prise directe avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, être en prise directe avec les Français. Donc l'enjeu va être dans la sincérité, dans la proposition, parce qu'en fait, ça a fuité, donc on sait ce qui va se passer. Que peut-il inventer de plus fort que la suppression de l'ENA ? Je ne vois pas. c'est risible. Bon, je ne vois pas. Donc il va falloir confirmer manifestement.
Comment Vous pensez, Yasmina Jaffar, c'est votre opinion, votre avis, qu'il n'y aura pas d'effet surprise. On sait tout à peu près aujourd'hui.
On sait presque tout parce que s'il y avait une grande annonce importante, on ne se serait pas attardé sur l'ENA. Ça aurait été quelque chose d'un peu plus important et ça n'est pas le cas. Maintenant, tout est possible depuis Notre-Dame pour repenser la chose, essayer d'imaginer comment les choses ont été acceptées par les Français. Il y a eu ce week-end un sondage qui expliquait que les mesures qui ont fuité ont une bonne presse, donc ça peut le conforter dans cette idée, et il va falloir qu'il y ait un jeu assez sincère pour entendre ce qu'est le macronisme réellement, recommencer sur cette idée et expliquer aux Français qu'il les a absolument entendus et compris. Ça, c'est très très important. Il joue son quinquennat là.
Agathe Cagé, ah oui, vous dites qu'il joue son quinquennat. Ah oui. Vous êtes d'accord avec ça, Agathe Cagé? Il joue son quinquennat demain soir.
Malheureusement, il a joué depuis quelques mois déjà et je ne suis pas sûre qu'il ait gagné cette partie. Mais non, plus fondamentalement, je pense que même si Emmanuel Macron avait pu faire comme prévu lundi dernier son discours, il n'y aurait eu aucune surprise. Si la surprise, c'est de dire pour une partie des retraites, je fais de la correction par rapport à ce que j'ai fait, parce qu'en effet, je me suis gouré en désindexant les retraites par rapport à l'inflation, je les remets. Qu'est-ce qu'il fait? Il corrige quelque chose qu'il a mal fait. Il n'y a pas de surprise. La suppression de l'ENA, je vais pas en parler, parce que quand les Français disent on souhaite plus de pouvoir d'achat, on souhaite plus de fonctionnaires dans les écoles, on souhaite plus de fonctionnaires dans les hôpitaux, dire on va supprimer l'école de la haute fonction publique de manière totalement démagogique, en le remplaçant par autre chose. En le remplaçant directement par autre chose. En fait, je supprime un nom, j'en mets un autre à la place. Je trouve que ça manque vraiment de grandeur. Et quand on voit comment ces écoles, globalement, la fonction publique avait été pensée en 44-45 par Debré et le général de Gaulle, c'était un autre niveau d'ambition pour la gouvernance de la France que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Christophe Lévesque, quelle serait à votre goût une mesure spectaculaire, je dis, susceptible au fond d'apaiser le débat social?
Ben, c'est impossible puisque ça va à l'encontre de son idéologie, ça va à l'encontre de ce qu'il...
Vous êtes pessimiste.
J'étais content qu'il y ait un grand débat. D'ailleurs, il doit y avoir un grand débat tout le temps. Voilà, sans fin, comme la vis. mais je comprends pas toujours. Mais je ne sais pas qui conseille l'Élysée. On parlait tout à l'heure des conseillers, mais c'est vraiment des billes. Hein.
Bah, ils sont partis. Il y en a plus beaucoup. Oui, en
ce moment. Ils sont partis. On attend le prochain.
On sent
que c'est le désert de Gobi là-bas au niveau de la pensée. Hein. C'est comment dire faire un suspense sur tout ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais vous allez voir les annonces. Mais alors vous allez voir. Moi, j'ai vraiment l'impression, sans tomber dans des théories foireuses, qu'ils le font un peu exprès. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en mettant la barre très haut, les gens vont être déçus. Et comme ils vont être déçus, ils vont être en colère.
Vous allez loin, vous. Oui.
Ben, si on réfléchit bien, mais ça c'est vieux comme le monde, quand on est le rempart aux extrémismes, au radicalisme et à la violence, etc., si on est le rempart et qu'il n'y a personne derrière le rempart, on a l'air d'un con. Plus il y a de gens énervés derrière le rempart, plus on est un rempart.
Bon, allez, plus que deux jours à temps pour connaître l'ensemble des mesures qu'annoncera le président de la République. Marion Mourgue, quelle est la une du Figaro demain?
Les médicaments et la progression inquiétante de contrefaçon.
Et avec vous, Yasmina Jaffar, que propose votre site, laruchemedia.com?
Une interview de Boualem Sansal, écrivain algérien, et de Karim Zeribi, qui est un éditorialiste politique, sur le regard de ce qui se passe en Algérie. Ce week-end, il y a eu des arrestations de capitaines d'industrie, donc il y a quelque chose qui se passe là-bas autour de la pensée, j'avais envie d'avoir leur avis.
Et je rappelle, Christophe Lévesque, vous êtes sur scène, sur les planches, à Lyon, c'est samedi, au Toboggan, pour votre...
Revue de presse. Et juste un petit mot pour finir l'émission. C'est la première fois où je suis en minorité, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. J'en suis ravi. En profiter pour vous dire qu'un nouveau magazine est sorti, s'appelle Ciné Madame.
Donc, voilà, c'est chose faite. Merci de la précision. Merci à vous également, Agathe Cagé. Merci. Pour ma part, je vous dis bonsoir et à demain pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.